L'histoire méconnue du village d'Iroulégui, racontée par Dami Vigier.
Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, Iroulégui est la Grande Guerre de 14-18. Pour le village d'Iroulégui, on trouve 110 hommes susceptibles d'être mobilisés pendant les 4 années qu'a duré la guerre, c'est-à-dire des hommes qui sont nés entre 1867 et 1901. Mais 14 hommes nés à Iroulégui, et pourtant non décédés avant 1914, ne figurent pas sur les fiches de recrutement. Parmi eux, 4 étaient des Espagnols, mais un autre résidait peut-être en Argentine. En se basant sur les renseignements portés dans les fiches de recrutement, on constate qu'environ 2/3 des hommes mobilisables sont des agriculteurs. On les appelle cultivateurs, on les appelle laboureurs, et les autres sont des bergers émigrés en Californie ou au Nevada. Et parmi ces agriculteurs, 63% sont propriétaires de leur exploitation. Le reste, ce sont des métayers. Qu'avons-nous comme autre métier? C'est très varié. Un valet de chambre, un manœuvre de carrière, un charpentier, un tanneur, un mégissier, un chauffeur auto, un mécanicien, un employé de beurrerie, un employé de la régie, que je suppose du tabac. On a aussi un étudiant, un élève maître, un professeur et un élève ecclésiastique. On ne connaît le degré d'instruction que pour la moitié de ces hommes. On sait que 27 d'entre eux ont suivi l'école primaire. 13 savent un peu lire et écrire, 2 savent tout juste lire, et 9 ne savent ni lire ni écrire. Par contre, le professeur et l'élève maître ont leur brevet, l'élève ecclésiastique a son bac. Quand on étudie ces fiches militaires, on compte 36 insoumis, c'est-à-dire le tiers des hommes mobilisables. Et on compte 7 cas réels d'exemption ou de réforme, c'est-à-dire d'hommes qui vraiment n'ont pas du tout fait la guerre. Pourquoi y a-t-il autant d'insoumis? On peut mettre ça sur le compte de l'émigration. Elle explique en grande partie cette insoumission massive. En effet, sur nos 36 insoumis, il y a quand même 29 émigrés qui sont partis soit en Amérique du Sud, soit aux États-Unis. Et aucun de ces insoumis, qu'ils soient émigrés ou restés au pays, ne s'est présenté pour la guerre de 14-18. Ceux qui résidaient à l'étranger, ils n'avaient pas forcément la possibilité ou l'envie de revenir en France pour partir à la guerre. Pour les réformer, les causes de réforme sont très diverses. Je vous donne la liste telle qu'on les a trouvées. Infantilisme, hypermétropie réduisant la vision au-dessous d'un quart, tuberculose, obésité extrême, ankylose en flexion du médium de la main gauche, péricardite chronique, varicocèle au côté gauche, légère hypertrophie du cœur, dyspnée d'effort, vertige, palpitations cardiaques, hypertrophie du cœur. Il est quand même à noter que certains hommes qui ont été réformés en 1914 ont quand même été mobilisés par la suite en 1917. Où servaient nos poilus d'Iroulégui? Ils servaient surtout dans l'infanterie, le fameux 49e régiment d'infanterie de Bayonne ou alors le 18e régiment d'infanterie de Pau. On trouve aussi quelques artilleurs. On trouve un infirmier, et c'est le fameux curé Pierre Saint, celui qui a construit la nouvelle église Saint-Vincent. Il a été mobilisé en 1915 et il appartenait à la 18e section d'infirmiers militaires de Bordeaux. Tous ces soldats étaient en majorité de simples soldats de deuxième classe. Mais 6 d'entre eux, quand même, étaient gradés. On trouve 4 caporaux, un adjudant-chef et un sous-lieutenant. Où ont-ils servi? Dans quelle campagne militaire? On les a retrouvés par 3 fois au fameux chemin des Dames. On les a retrouvés de toute façon à Verdun, dans la bataille de la Somme, un peu partout. Mais c'est surtout au chemin des Dames qu'ils ont combattu et que beaucoup ont été tués. Combien avons-nous de morts à Irulegui? Alors, Irulegui a perdu 7 de ses enfants morts pour la France. 6 sont morts pendant la guerre. 1 est mort juste après la guerre, en mars 1919, mais il est quand même reconnu mort pour la France et il est porté sur le monument aux morts. Il y a eu aussi 5 autres morts, des hommes qui n'étaient pas nés à Irulegui, mais qui étaient domiciliés dans le village au moment de la guerre, parce qu'ils y étaient mariés ou bien parce qu'ils y étaient domestiques, ouvriers, saisonniers. Ou alors aussi, il leur restait peut-être de la famille dans le village. La plupart de ces soldats morts à la guerre étaient très jeunes. Ils avaient moins de 30 ans. Un seul a plus de 40 ans. À tous ces morts, il faudrait ajouter aussi d'autres morts qui n'ont pas été comptabilisés. Ce sont des hommes qui ont été démobilisés pendant la guerre, mais qui sont morts chez eux de suite de blessures. Ou alors, vite après la guerre, là encore, de suite de blessures, et je pense en particulier à un soldat qui avait été amputé et qui a attrapé la gangrène. Pour les 14 soldats d'Irulegui qui ont été blessés pendant la guerre, on dénombre une 20aine de blessures, plus ou moins graves. Ce sont surtout des blessures aux jambes ou aux bras par éclat d'obus. On n'a aucune gueule cassée chez nous. On trouve aussi des troubles auditifs, des ruptures de tympan, des commotions cérébrales dues aux explosions. Aucun cas d'intoxication au gaz n'est signalé pour nos soldats, mais on remarque quand même que 2 hommes sont morts chez eux de problèmes pulmonaires après être rentrés de la guerre. À ces blessures physiques, il faut quand même ajouter aussi les problèmes psychologiques des soldats. Rentrer chez eux, entre guillemets, sains et saufs. Et ces problèmes psychologiques n'ont jamais été comptabilisés. Nos soldats d'Irulegui étaient très courageux. 13 ont mérité citations, médailles ou croix de guerre. On compte 4 prisonniers dans nos soldats d'Irulegui. On peut même y ajouter le cas, un peu spécial, d'un soldat qui était hospitalisé pour blessures dans le nord de la France et dont l'hôpital est passé aux mains des Allemands. Et l'armée l'a, à partir de ce moment-là, considéré comme en captivité. On ne trouve qu'un seul cas de désertion parmi les soldats d'Irulegui, mais c'est une histoire qui vaut le coup d'être racontée. Ce soldat a été mobilisé début octobre 1914, il avait déjà 41 ans. On suppose qu'il n'a pas du tout apprécié les premiers combats, très meurtriers, car il est déclaré déserteur en novembre 1914. La gendarmerie de Baïgorry finit par le retrouver et on le ramène au corps en juillet 1915. Il passe en conseil de guerre, il a la chance de ne pas être fusillé. Il est condamné à 6 ans d'atelier de travaux publics au redoutable pénitencier de Bougy, en Algérie. Mais en mars 1918, le jugement est suspendu, évidemment, on manque d'hommes. On le renvoie au front et il est fait prisonnier au chemin des Dames en mai 1918 et interné dans un camp allemand. On le rapatrie après l'armistice en décembre 1918 et là, il apprend que le président de la République avait décrété une remise de peine à partir de juillet 1918. Il rentre donc à Irulegui tranquillement le 20 janvier 1919. Quelles répercussions de cette guerre pour le village ? On ne le sait pas trop parce que le registre des délibérations municipales d'Iroulégui contient très peu d'informations. On sait en décembre 1914 qu'il y a eu exonération de prestations pour tous ceux qui avaient été mobilisés, y compris le déserteur qui est marqué, entre parenthèses, déserteur. En novembre 1915, la mairie accorde une subvention à l'association qui s'appelle le Phare de Bordeaux et qui s'occupait de rééducation des soldats aveugles. On sait aussi que le maire d'Iroulégui a avancé de sa poche la somme de 200 francs pour des réfugiés qui ont habité la commune entre juin 1918 et novembre 1918. Donc c'était des frais de nourriture, de logement, de bois de chauffage, et puis les achats d'ustensiles et de linge. Et la dernière information que nous ayons, c'est en novembre 1919, un grand banquet pour les soldats démobilisés, certainement le 11 novembre 1919. Aucun quartier du village n'échappe à la mobilisation. Il arrive même que dans une maison, plusieurs hommes partent à la guerre les uns après les autres. Parfois, il s'agit de différents domestiques de la ferme. Mais le plus souvent, ce sont les membres de la même famille, comme dans le cas des maisons Borteiria, Echeveria du bourg, Garacochia et Diaoberi-Borda, qui virent partir 3 soldats chacune. Ce sont finalement 13 hommes travaillant au village qui trouvèrent la mort pendant le conflit, ce qui représente un traumatisme important pour une population qui était déjà amoindrie par l'immigration. Sans compter que parmi ceux qui eurent la chance de rentrer chez eux, certains gardaient de lourdes séquelles, donc ne pouvaient plus travailler, ou même sont morts dans les années qui suivaient. Et pour tous les poilus qui sont revenus au village, restait de toute façon un problème majeur, reprendre une vie normale, après de longs mois de souffrance, d'atrocité, en essayant d'oublier les images terribles de l'enfer qu'ils avaient vécu. Enfin, je voudrais rendre un hommage particulier aux femmes et aux mères de tous ces soldats, au courage qu'elles ont montré pour gérer les exploitations en leur absence, aux larmes qu'elles ont versées quand elles ont appris la mort de leur père, de leur frère, de leur mari, de leur fils, à leur détresse quand il fallait expliquer aux enfants qu'ils ne reverraient plus leur père, à la patience qu'il leur a fallu après la guerre pour aider leur mari, leur frère, à reprendre une vie normale. Je trouve que ces femmes mériteraient aussi des croix avec des étoiles, des citations, des médailles. Je vous donne rendez-vous à une prochaine fois.
L'histoire méconnue du village d'Iroulégui, racontée par Dami Vigier.